saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, André Duny, c'est la rentrée et il y aura un plan de relance le 3 septembre. Hier, avec l'ami Yves, on est allé se balader en haut de Nance et de la montagne qui domine Pombo voisin et le lac d'Aigbelette. Eh bien, on en est revenu atterré tellement d'arbres sont en complet roussissement. Des plants qu'on voyait d'habitude résister, hein, qui ressemblent à des sortes de plantes grasses, même dans le sous-bois, complètement flagada. Bon, eh bien écoutez, on va dire avec Einstein que la joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. On aimerait bien que la nature soit un cadeau moins abîmé par la folle globalisation et le folle système dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, puisque le 3 septembre, c'est la présentation du plan de relance, 100 milliards, beaucoup de dettes faites par nous, non, pas par nous, par l'Europe, par la BCE, la Banque Centrale Européenne, beaucoup de dettes faites au nom des États, que les États devront rembourser à cette banque centrale, et nous devrons travailler plus, dit-on, sur BFM Business, TV, on devra travailler plus, parce que finalement ça va générer de la dette, et la dette, faut disent-ils, déjà la rembourser. Donc on sera bon pour l'austérité, travailler plus, gagner moins, pour rembourser la dette que l'État fait en notre nom, pour relancer quoi ? 25 milliards rien que pour l'avion et l'automobile, qui ont déjà pas mal détruit la planète, et qui sont d'une utilité pour la survie qui nous attend en contexte d'emballement climatique extrêmement réduite. Hein. Donc, il va falloir attaquer le problème de la décroissance ou d'une autre relance. Et c'est ce dont j'aimerais qu'on s'occupe aujourd'hui, en redisant avec Einstein que la joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature, mais aussi que l'ensemble de ce qui compte ne peut pas être compté. Or, la vie, ça peut pas être compté. Mais l'ensemble, dit-il, de ce qui peut être compté, ne compte pas. La vie, c'est plus que de faire du pognon. Et, comme il disait, on ne résout pas un problème avec la pensée qu'il a créée. Est-ce qu'on résoudra le problème qu'a posé la croissance exponentielle pendant les 30 glorieuses et relativement continue relativement continue, mais bien plus faible, hein, on n'était plus dans les 10%, 7-8%. Est-ce qu'on résoudra les problèmes de la croissance en raisonnant croissance ? Parce qu'il se dit partout que c'est avec la croissance que ce plan de relance qui relancera la croissance avec simplement quelques 20 milliards pour la transition, isoler un peu les bâtiments, peut-être développer un peu plus le transport ferroviaire, ce qui fait un peu rigoler vu que maintenant il est privé et qu'il est ouvert à la concurrence et que je ne vois pas bien comment l'État, qui n'est plus qu'un actionnaire parmi d'autres, va relancer un plan de relance du transport doux ou du transport propre ou du transport écologique. En tout cas, cet argument général intègre la conviction que la dette publique exige le retour d'une croissance forte pour pouvoir être remboursée. Parce que plus on va gagner, plus on va pouvoir rembourser. Rembourser qui ? Les grandes banques qui prêtent à l'Europe. Eh oui, l'Europe est devenue une vassale des plus grands groupes financiers comme BlackRock, 7000 milliards d'actifs financiers, c'est-à-dire presque trois fois et demi le PIB de la France. Une seule banque, hein, un seul fonds de pension qui possède plus que trois fois la France. On croit un cauchemar, mais non, c'est bien la réalité. Hein. Donc, cette émission sera juste pour la joie de comprendre. On va essayer de réfléchir hein, que derrière cette idée de croissance et l'idée qu'on ne pourra pas lutter contre le chômage, hein, on annonce 1 million de chômeurs de plus en France, en gros pour la rentrée de janvier ou pour Noël, ou 800 000 pour décembre, enfin, on est dans ces chiffres-là. C'est hallucinant de misère, de désespoir, mais, hein, ça s'ajoute aux 6 millions et demi existants déjà. Mais je crois que plus on va secouer nos neurones et essayer de réfléchir comment sortir de cette pataugeoire, et peut-être mieux ce sera pour nos enfants, nous-mêmes, et pour l'avenir de la planète, parce qu'un pays comme la France est quand même la 6e puissance mondiale, qui fait donc à peu près, pas le 6e, hein, des gaz à effet de serre, mais pas loin, et qui pourrait donc de ce fait jouer un rôle très important comme entraîneur d'autres pays. Ce qu'on a fait pendant la Révolution et pendant la Commune de Paris, c'est de donner au monde des idées d'émancipation et des idées nouvelles de démocratie que le monde ensuite a couru un petit peu après. Après, on va dire que la démocratie de l'époque, c'était surtout comment empêcher le peuple de décider de ses oignons. Mais c'était déjà mieux que se faire fouetter par le Seigneur ou se faire violer par le Seigneur parce que tel était son bon vouloir. Donc du coup, on va essayer de démolir l'argument selon quoi c'est la croissance qui va nous permettre de relancer la machine, de créer de l'emploi, de diminuer peut-être un peu les inégalités et sans doute de pouvoir rembourser les dettes que l'État contracte en notre nom. Donc, c'est... Comment dire ? Première remarque. La croissance est réalisée au prix d'une pression énorme sur les hommes, les humains, les hommes, les femmes, et même les enfants, par une intensification du travail, une accélération du temps, et un épuisement au travail, un épuisement nerveux, hein. Pas que physique, hein. C'est vrai qu'il y a des travaux en aciérie, mon père était fondeur aluminium après avoir été ouvrier agricole. C'est sûr que le voir bosser à l'usine, c'était un crève-cœur, hein, surtout c'était le travail de nuit. Mais c'est aussi maintenant, devant un écran d'ordinateur, un épuisement intellectuel, un dessèchement de la vie. Et donc, voilà. Et la catastrophe anthropologique dont certains auteurs parlent, la catastrophe humaine, c'est que dans le loisir, c'est le règne du « consomme et tais-toi », c'est le règne du « tout et tout de suite », c'est le règne du smartphone à tour de bras, des écrans, du porno, de la jouissance infinie, sur planète finie. Bilan des courses, c'est chacun pour sa pomme, et une société éclatée, où l'égoïsme individuel a pris le pas sur les anciennes solidarités, les anciennes règles de décence et de sobriété. Maintenant, c'est débridé, nos jeunes ne savent plus où ils habitent, sur quelle planète, d'où vient le lait, comment se comporter, puisque tout est permis quasiment. Ça, c'est dans la sphère privée, dite de la consommation. Dans la sphère de la production, dans l'usine, c'est des cadences infernales, c'est de fermer sa gueule et c'est d'obéir au patron. Point terminé. Et même les heures sup pas payées, comme on le voit dans la restauration. Voilà, le capitalisme a deux faces. Une face extrêmement dictatoriale, hiérarchique, verticale, et intense pour exploiter le travail humain et faire de la plus-value pour les actionnaires. Je rappelle que Sanofi, qui a fait la dépakine, hein, 30 000 gamins impactés en France d'anomalies, hein, et bien cette société, hein, Sanofi, quand elle fait 12 milliards de bénéfices, elle en verse 8 milliards aux actionnaires. Puis après, elle dit ah, les médicaments sont chers parce qu'on doit faire des recherches. Oui, mais il y a 8 milliards d'argent créé par l'intensification du travail dans l'industrie, dans cette industrie chimique fine qu'est l'industrie pharmaceutique, qui sert à faire travailler comme des malades les gens d'une façon si intense que quand ils sortent du boulot, même si le boulot est moins long qu'au début de ce siècle, hein, on travaille plus 10 heures par jour, eh bien on est rincé lessivé. Et donc, on est la proie de loisirs plus faciles du type regarder des films, des séries, consulter Facebook, la Poucase, c'est-à-dire des choses sans importance, des communications, on n'existe plus en tant qu'être humain bien assis sur la terre et dans ses relations sociales dans son quartier ou dans son village, mais on n'est plus qu'en train de chercher à communiquer et à exister dans la communication numérique. On n'est plus un homme du monde, on est un homme de la communication numérique où il faut se vendre sur le marché symbolique des valeurs ajoutées du numérique. Donc voilà, t'as vu, voilà, j'ai acheté ça, c'est sensationnel, tu devrais faire pareil, t'as vu, j'ai trouvé une pilule qui me met la pêche, voilà, j'ai fait dans la salle de sport, enfin bref. Donc, en premier lieu, la croissance est réalisée au prix d'une pression énorme sur les humains qu'elle a démolie. Beaucoup de gens sont fatigués, malades et déprimés. Hein, en France, une personne sur 8 ou 9 fait un séjour à l'hôpital psychiatrique dans sa vie, et même une sur 6. Les dépressions sont nombreuses. 40% des salariés estiment être au bord du burn-out. C'est voilà, ce qu'on peut appeler la catastrophe anthropologique. Et puis surtout, il y a, enfin surtout non, pas surtout, et aussi une empreinte écologique, une destruction d'une planète qui est complètement au bord de l'explosion, si ce n'est qu'elle est en train de se réchauffer à une vitesse qui affole les compteurs, puisque, je vous le rappelle, les 3000 chercheurs du GIEC, Groupement Intergouvernemental sur l'Étude du Climat, GIEC, hein, de l'ONU, chaque fois qu'ils publient des résultats, ils s'excusent, mais ces résultats sont plus catastrophiques que ceux qu'ils attendaient. Et chaque fois, ils les publient avec un certain retard, parce que la science est prudente, mais chaque fois... les fourchettes, parce qu'ils font une fourchette haute, une fourchette basse, hein, ça, c'est-à-dire c'est des prévisions. Donc on est là dans, non pas la science hyper exacte, hein, parce que le climat c'est des milliards de facteurs qui s'entrechoquent, donc les calculateurs géants qui peuvent modéliser son évolution font qu'on est plutôt dans des fourchettes de probabilité. Alors, les probabilités hautes d'un réchauffement de plus de 6 degrés, c'est-à-dire la vie disparaît de la Terre, la fourchette basse était 1,5 degré. Et donc, il y a la courbe. Et bien, à chaque fois, la courbe est plus haute que tout ce qu'on avait prévu. Donc, on est bien sur une trajectoire qui risque de se rapprocher des 6 ou 7 degrés supplémentaires, c'est-à-dire il n'y a plus de glace, plus d'océan, tout a fondu, c'est vaporisé. Donc, vous voyez l'enjeu. Hein, la croissance a tué le climat. Point. Ce n'est pas la croissance, c'est la croissance d'un système croissanciste, industrialiste. J'étais hier, avant-hier, pour des examens donc à l'hôpital Chambéry, mais j'en ai profité pour faire un saut dans mes deux librairies préférées. Je vous recommande Jean-Jacques Rousseau. Et puis j'ai aussi fait un saut, il manquait 2-3 livres, donc j'ai fait un saut chez la librairie Garin. Donc l'une plus militante, l'autre très bien fournie, ayant beaucoup plus de moyens, des livres étalés partout. Et moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de livres, aussi parce que, bon voilà, quand on entre dans une librairie, souvent on cherche quelque chose, mais on rencontre quelque chose qu'on n'a pas cherché, et ça c'est le top. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben j'ai trouvé ce livre d'un Nathaniel Rich, « Perdre la terre, une histoire de notre temps ». Eh bien, je vous assure, vous ne lisez pas ça, parce que ça va vous tuer le moral. Mais lisez-le quand même. Il fait l'inventaire depuis 80 de toutes les initiatives qu'on a fait avorter en faveur du climat. Et qui les a fait avorter? Voilà. Là, il fait une sorte de sténogramme précis d'historien des occasions montées de ne pas tomber dans cette montée massive des températures qui vont faire de la planète une sorte d'étuve, quoi. Perdre la Terre, une histoire de notre temps. Et bien sûr que je suis tombé, naturellement, sur les idées pour retarder la fin du monde. Et c'est ce dont je vais essayer de vous entretenir. D'abord, mettre à terre et à genoux l'idée de croissance pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que plus on a de croissance, plus on a de sous, plus on peut faire l'isolation, transport d'eau, et gnagnagna. Eh bien, en premier lieu, on ne résout pas un problème, dit Einstein, avec la pensée qu'il a créée. C'est la croissance qui a mis par terre, je vais parler de la mondialisation au début de ces émissions, hein. Ça a été aujourd'hui la recroissance massive de l'extrême pauvreté qu'on appelle la misère. Hein, il y a pauvreté et misère. Moi j'ai été dans une famille pauvre, c'était pas la misère. On était heureux, en cœur de la nature, une ferme isolée, enfin heureux, on bossait comme des bêtes, mais on avait des hivers, des veillées, des fêtes, bon, c'était pas l'enfer. Tandis que quand vous êtes dans une banlieue de ville, pas un pognon et rien, et que vous devez survivre en vendant des cigarettes, c'est l'enfer. Donc il faut lire quand la misère chasse la pauvreté. C'est le capitaliste qui a créé la misère. Avant, il y avait la pauvreté, les gens en lopin de terre, ils essayent de vivre, d'échanger, de faire des fêtes, voilà. Mais ils vivent. Ils vivent parfois bien, ça dépend où ils se trouvent, parfois ça dépend s'il y a des guerres, si l'État les spolie, ou si plutôt les propriétaires font la razzia sur leur dos. Mais dans l'ensemble, la pauvreté n'est pas la misère. Eh bien, le capitalisme est en train de booster la misère sur la planète. On était descendu avec la croissance de la Chine, son modèle d'État capitaliste planificateur, hein, comme l'a été la Russie et l'URSS, qui n'était pas du socialisme, ni du communisme, ni du marxisme, mais une sorte de capitaliste d'État industrialiste, planificateur et assassin de son propre peuple. Même si une bonne partie du peuple le regrette aujourd'hui, disons qu'on aurait pu développer la Russie soviétique d'une autre façon, telle que d'ailleurs la Commune de Paris, Karl Marx lui-même, Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, le disait. Dans une lettre fameuse à la Révolution, il disait « Ne ruinez pas votre propre œuvre en maintenant la dictature du parti unique. Allez aux élections !» C'est Gramsci qui le disait, en 1922. Donc vous voyez, les bifurcations historiques, elles sont parfois évitables. Et on a eu la tragédie du communisme, mais là, on a presque pire, puisqu'on a la tragédie de la fin du monde. C'est quand même 7 milliards d'existences qui sont en jeu. Et même si Staline a bousillé 8 milliards de personnes, on va pas faire une comptabilité macabre pour dire que c'est bien plus grave, sachant que le communisme a quand même mis fin à son règne sans bain de sang. On pourra pas en dire de même de la fin du règne du capitalisme, sauf si, voilà, nous battons pour une autre relance. Alors on va pas dire une autre relance, hein, pour un autre monde. Je tombais également sur un autre bouquin hier, de Daniel Tanuro, j'aime bien ce mec là, qui est un marxiste intelligent, ouvert, belge, de surcroît, et dans cette petite encyclopédie critique, Daniel Tanuro, après avoir fait un bouquin que j'ai déjà recommandé, je crois, qui s'appelle « L'impossible capitaliste vert », celui avec des éoliennes géantes, 1000 tonnes de béton par éolienne, 200 tonnes d'acier, 200, 300 kilos de néodyme pour booster les aimants qui font tourner les alternateurs, enfin pas les alternateurs, l'alternateur de l'éolienne géante. Comme la France en programme soi-disant 18 000 éoliennes, ben bonjour les dégâts, hein, des mâts de 250 mètres de haut, des pales de 180 mètres de diamètre. Bref, on va bousiller la nature, mais d'une façon différente, vu qu'il en faut combien ? 2500, 3000 pour remplacer un seul réacteur atomique français. Je ne suis pas pour l'énergie atomique. Mais c'est pas parce qu'on va couvrir nos montagnes et nos campagnes d'éoliennes qu'on va régler le problème de cet autre modèle de vie que peut-être on peut continuer d'explorer à cette radio, si cela vous intéresse. Donc Daniel Tarouneau, son dernier bouquin, c'est « Trop tard pour être pessimiste. Éco-socialisme ou effondrement ?» Voilà, éco-socialisme ou effondrement, c'est-à-dire une sorte de socialisme sans croissance, sans industrialisme, sans... Bon, voilà, et ben c'est peut-être possible, hein, entre parenthèses. Bon, on va peut-être encore se fâcher un peu plus, j'espère non, hein, puisque c'est appuyé quand même sur des données. Le seul pays d'Amérique latine sans malnutrition infantile, c'est qui a été déclaré paradis international de l'enfance par l'organisation UNICEF qui dépend de l'ONU. Quel est le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique, États-Unis compris ? Qui a fabriqué depuis 1961 130 000 diplômés en médecine et les exporte dans le monde entier au point qu'ils sont venus au secours de l'Italie en Lombardie où quelques dizaines de médecins ont débarqué pour donner un coup de main à des hôpitaux débordés. Ils ont débarqué assez récemment à la Martinique, c'est-à-dire en France, pour aider dans les hôpitaux de la Martinique, qui ont développé 4 types de vaccins contre le cancer, dont le système de santé est un exemple pour le monde entier, comme me disait un de ces exilés à Valence. Ah écoute, on peut dire ce qu'on veut, mais nous, on n'a pas de carte verte. Hein. Quand on est malade, on y va. C'est tout gratos. Et il me disait, puis l'école, c'est pareil. On y va et c'est tout gratos. Mais chaque école a un jardin, chaque école a des ateliers. C'est-à-dire que les enfants, comme dit Einstein, ils n'apprennent pas uniquement avec, des cours théoriques. Hein, voilà. Et il dit, l'essentiel, je l'ai mis sous mes yeux là, hein, le père Einstein, j'adore ses citations. Donc j'avais fait tout un bazar de citations que j'ai tirées en papier, que peut-être vous pourrez un jour vous procurer dans les endroits où je les laisse, par exemple. Et alors, il disait, les seuls savoirs, on les tire de l'expérience. Et seul vrai savoir. Le reste, ce sont des informations. Hein. Savoir que le Soleil est à 180 millions de kilomètres de la Terre, c'est une information, c'est pas un savoir. Par contre, savoir que quand on veut faire un lance-pierre et une fronde et qu'on fait tourner un caillou au bout d'une ficelle en le faisant tourner de plus en plus vite et que la force centripète est de plus en plus grande, alors ça, oui, c'est de l'expérience. On comprend très bien que sur la ficelle, il y a une tension pour partir. La masse et la vitesse angulaire font une force dite centripète qui vise à ce que le caillou aille très loin. Et en même temps, il y a la force contraire. C'est une force centrifuge, pardon. Et il y a une force contraire, centripète, c'est la résistance de la ficelle qui maintient le caillou sur son orbite. Ça, c'est du savoir. Parce que si vous faites la théorie de cette pratique, comme dit Piaget, vous passez d'un schéma d'action à un concept ou à une opération intellectuelle. Et là, vous êtes dans du savoir solide. Hein, si vous répétez des trucs que vous avez chopés sur Facebook sans en expérimenter ou sans essayer d'en voir la validité, dans des expériences éventuellement que d'autres font, hein, eh bien, vous êtes perdu dans un océan de fake news ou de faux savoirs ou d'infos incontrôlées qui vous font dire tout et n'importe quoi. Voilà, essayons de bien réfléchir, toujours à partir de lectures, à partir de l'expérience, à partir de balades dans la nature, à partir d'expériences de comment on s'est fait avoir, qui est propriétaire, en se posant des questions, voilà. Mais pas, ce qu'il dit Einstein encore, la théorie c'est quand on sait tout, mais rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, les travailleurs, ils savent faire fonctionner un pont, ils savent construire une voie de chemin de fer, ils savent tout faire, mais des fois, ils ne savent pas la théorie de pourquoi ça tient, le pont. Quelles sont les forces qu'il faut neutraliser, mettre en œuvre pour que l'ensemble tienne bien. En théorie, on sait tout, sauf que parfois, les ponts qu'on fait en théorie, ils s'effondrent plutôt que prévu. Voilà. Dit-il, alors là, moi je disais, c'était souvent dans l'éducation nationale, hein, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Voilà. Donc, restons dans la joie de regarder et de comprendre et d'expérimenter quel est le plus beau cadeau de la nature. Sachant que l'ensemble de ce qui compte ne peut être compté, et l'ensemble de ce qui peut être compté, les sous, ne compte pas. Et qu'on ne résout pas un problème avec la pensée qu'il a créée. Donc, la croissance et la catastrophe. C'est un système qui a un nom, c'est le capitalisme. Et donc, son but, c'est servir ceux qui investissent dans cette croissance. Hein, sortir une usine qui fait, 200 000 chemises à la semaine, eh bien, il faut vendre les chemises, il faut les vendre le mieux possible, il faut produire le moins cher possible, il faut ramasser la monnaie le plus possible, voilà. Et donc, on appelle externalité tout ce qui est les pollutions que cela génère. En externalité, il y a la sécu, la fatigue, les maladies, le stress, tout ça. Ça, il s'en fout le capitalisme, ça, c'est la sécu qui paye. Ou c'est les individus qui se suicident ou qui vont mal. Et puis, le capitaliste s'en fout complètement de la nature, puisque lui, pour lui, la nature est qu'une ressource dans laquelle il puise à l'infini pour sa croissance infinie sur planète finie. Voilà. Et des théoriciens de la décroissance ont montré il y a bien longtemps que c'était impossible de faire une croissance infinie sur une planète finie. Ça défiait les lois de la physique, tout simplement. Donc, deuxième argument, c'est que la croissance se fait sur le dos de ces externalités négatives. Si vous voulez un détail, je l'ai trouvé dans Idées pour retarder la fin du monde. Là, il y a eu ces dernières années l'exemple d'une rupture du barrage de Fundão, au Brésil, hein. L'usine de fer, il y avait une usine de fer à ciel ouvert, et comme le fait de traiter le minerai crée beaucoup de pollution, il y a un lac de retenue, comme dans toutes les exploitations minières. Et l'entreprise s'appelait Samarco, hein, c'était une multinationale brésilienne, mais aussi avec l'entreprise Vale. Ils étaient à deux associés, qui est une entreprise anglaise et australienne. Et donc, là, ils produisaient du fer, mais ces deux entreprises produisaient aussi du diamant, de l'uranium, du pétrole, du bauxite, du charbon, enfin bref. Et leur fameux petit lac avait un petit barrage fait le moins cher possible pour que ça ne pèse pas trop sur les bénéfices des actionnaires. Et il a lâché à la suite de pluie. Et c'est 60 millions de tonnes de boue toxique, de déchets de minerais de fer, qui ont créé une inondation sur 600 km dans le fleuve Rio Doce. Ça a tué 19 personnes sur le coup. Bon, c'est pas très habité, mais des millions de poissons ont crevé. Ça a intoxiqué pour des siècles des dizaines de milliers d'habitants et de kilomètres carrés. Tout l'écosystème a été foutu par une seule entreprise qui extrayait du minerai de fer pour faire la croissance dans nos pays, et bien sûr aussi au Brésil. Troisième argument à considérer, la croissance est désormais un rendement humain décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut beaucoup plus de croissance aujourd'hui pour obtenir un peu de bien-être dans nos sociétés occidentales saturées d'objets. Je rappelle, France, 100 millions de portables dorment dans les tiroirs. Hallucinant. Saturé, et il faut reconnaître qu'un nombre immense de biens et services ne constitue pas des progrès. Qu'est-ce que la 5G va nous apporter à part des maladies ? Donc ça, j'essaierai de vous en parler. La 5G, d'ailleurs, entre parenthèses, vous pouvez me faire des propositions, car j'ai beaucoup de sujets à traiter dans des dossiers, et je crois que je serai décédé avant de les traiter. Voici donc des responsables politiques et aussi l'ensemble de nos citoyens, écartelés entre deux exigences. À court terme, la croissance qui semble absolument nécessaire au progrès, la cohésion sociale et la transition énergétique, écologique. Mais tout point supplémentaire de croissance entraîne des dégradations humaines et environnementales catastrophiques. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre Charib et Scylla ? Bon. Il faut donc raisonner en dehors des catégories classiques. C'est bien ce que nous dit Einstein. On ne peut résoudre un problème avec les catégories qui l'ont créé. Donc, cessons de raisonner en mettant l'expansion du PIB en volume au centre de tout, puisque le calcul se fait en volume. Tant de volume de fer égale tant de millions d'euros égale tant de PIB, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, produites chaque année dans un pays. PIB de la France, 2200 milliards d'euros, je crois, à peu près, hein. Les États-Unis, ben c'est 5 fois plus, hein, ça doit être autour de peut-être même 6 fois plus, hein, ou 6, 7 fois plus, ça doit être autour de 15 000 milliards de voilà, plus même, ben, plutôt 20 000. La Chine, ça doit être 15 000, voilà. Et la France, et comme les autres pays maintenant, n'ont plus que ce mode de comptabilité, à savoir qu'un accident de bagnole, ça fait du PIB, puisqu'il faut réparer la bagnole, il faut soigner les personnes blessées, ça fait de la croissance en termes de PIB, voilà. Et parce qu'on ne compte que l'échange monétaire, que la monnaie, que le prix monétaire des choses. Voilà. Donc, là, on est des fois à se dire que les vieux qui meurent plus tôt, c'est une chance pour le PIB, parce que ça fait moins d'argent à dépenser pour les institutions. Et vous voyez, on peut très vite glisser dans tout ce qui est marchand, à la marchandisation de la vie. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit topo sur la marchandisation du corps des femmes et à la marchandisation de l'enfant avec l'excellent bouquin que je vous recommande de Sylviane Agacinski, « L'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué », comment, petit à petit, le droit à l'enfant, comme on a droit à des saucisses ou à une machine à laver, le droit à l'enfant supplante dans notre pays les droits de l'enfant. Or, il est peut-être meilleur qu'un enfant soit adopté, qu'il soit fabriqué dans des tubes ou dans le ventre d'une femme qui soit louée. On n'en est pas encore là, Dieu soit loué, mais on y va tout droit. Louer, c'est déjà le cas des bobos des États-Unis et de plein de pays riches qui payent 30 000, 40 000, des fois même moins, le ventre d'une Roumaine pour accoucher d'un petit qui sera leur à partir de leur gamète à eux. Lamentable évolution d'un système qui porte en lui la mort. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait Anatole France, mais il porte en lui la mort comme la nuée porte l'orage. Donc on réfléchira sur tout ce qui est marchandisation. Ne parlons pas du sexe, du porno, de la prostitution, toute chose qui dégrade dans le rapport marchand, la qualité d'une relation d'un être humain avec un autre être humain, par où se mesure, disait un certain Karl Marx, le degré d'humanité atteint par chacun. Quand on voit qu'il y a des robots sexuels au Japon pour satisfaire ces dames ou ces messieurs, voilà, moi j'en suis absolument retourné. Que des robots sexuels puissent vendre sur le marché et créer du produit intérieur brut au Japon, et ce sera chez nous c'est des objets en plastique, hein, poupées gonflables, godemichets, etc. Ça se vend en masse, par millions d'exemplaires. Quelle est cette sexualité qui se satisfait d'une sorte de masturbation caoutchoutée dans le même temps où à peu près 4 personnes sur 10 vivent seules? Voilà un système qui nous a mis tous en concurrence, tous en isolement, et tous seuls face au marché, et donc tous face à des satisfactions complètement illusoires, un peu comme la religion autrefois nous promettait le paradis, en échange de nos douleurs dans ce monde-ci. C'est hallucinant comment ce système nous fait vivre. Et là, la gauche, hélas, messieurs, mesdames, qui m'écoutaient, merci à vous, si vous avez cette patience, la gauche a complètement abandonné les modes de vie. Hein. L'essentiel, c'est des sous, des postes, des crédits. Hein. J'ai été dans un milieu enseignant qui, pendant 50 ans, rabâchait « Ah, il y a de la violence à l'école, des sous, des postes, des crédits. » Attendez les copains, pourquoi il y a de la violence? Qui est à l'origine de la violence? Est-ce que nous ne sommes pas violents? Où est la violence structurelle? On parle beaucoup de la violence physique, mais voilà, hein. Quand on parle de la violence du fleuve, peut-être qu'on pourrait réfléchir, les amis, à la violence des berges qui l'enserrent. Quand on réfléchit à la violence des jeunes, comme on dit, il faudrait peut-être réfléchir à la violence du système qui les dépossède de tout et qui les contraint. Quand on voit qu'un préfet a pris comme arrêté d'interdire le masque aux gens qui pédalaient à vélo en Île-de-France, le même préfet d'ailleurs qui a donné des ordres de lancer les LBD à tour de bras sur les gilets jaunes, on se demande que vraiment cette élite qui nous gouverne, dans quel monde elle a été fabriquée? Ben, c'est pas elle qui va nous faire une relance qui va permettre de résoudre nos problèmes. Voilà. Donc cessons de raisonner en mettant en avant l'expansion du PIB en volume, comme si le but ultime de nos sociétés était d'amener sur le marché et d'échanger toujours plus de biens et de services. que ce soit des poupées gonflables, des films porno, qui d'ailleurs, entre nous, en streaming, sont téléchargés par 90% des personnes après les dernières statistiques. C'est hallucinant. A-t-on besoin de cela pour être bien avec une autre personne, enfin, du même sexe ou du sexe opposé? C'est hallucinant. Cessons de raisonner comme si l'échange monétaire était le seul à pouvoir tenir les citoyens ensemble. Comme si ces seuls rapports marchands, tiens, je te donne des tomates, ah oui, tiens, bah, tu me dois 10 euros, il y a 2 kilos là. Hein. Ah oui, puis moi je te fais, je te coupe les cheveux pendant le Covid, ah ben là tu me dois 20 euros, ah ben non, on va dire 15 euros. Arrêtons de sans arrêt monétiser nos échanges. Mais c'est ça le rêve du capitalisme, c'est le marché, l'échange monétaire, c'est seul à pouvoir tenir les échanges. Voilà. Donc il y a des indicateurs qui prennent en considération ce qui compte vraiment pour l'inscription de nos sociétés dans la durée, l'accès de tous au travail décent, de qualité. Entre parenthèses, il faut passer aux 28 heures. Hein. Il y a des syndicats allemands, IG Metall dit qu'il faut faire 28 heures. En France, la CGT, elle relance, ouf, enfin, les 32 heures. Il y a 6,5 millions de personnes, plus 1 million en cette fin d'année, 7,5 millions de personnes sans boulot, et les autres se crèvent le cul à 35 heures par semaine. En réalité, la moyenne, c'est beaucoup plus. Et dans le commerce, vous le savez, c'est 39 heures, et souvent les heures supplémentaires pas payées. Donc, partageons le travail. Ben non, pour partager le travail, il faudra que les capitalistes partagent leurs bénéfices. Et en attendant, il faudra peut-être élargir la sphère publique. National. Et puis sur le plan local, il faudra élargir la sphère de ce qu'on appelle les biens communs, les terres communales, les bois communaux, les étangs communaux, enfin bref. Donc, au-delà du changement de ces thermomètres qui rendent malades comme le PIB, c'est le mode de production, de création de la valeur qui est, et de l'emploi, de la consommation qu'il faut changer de tout en tout dans ce monde que, si nous ne le faisons pas, comme le dit Daniel Tanoureau, eh bien, nous serons foutus. Ça en prend tout à fait le chemin. Ah oui, j'ai puis encore un livre qui m'a fortement plu. Je vous le recommande chaudement, Noam Chomsky, La lutte ou la chute. La lutte ou la chute. Et là, je ne peux pas m'empêcher de reciter mon copain. Alors, je dis mon copain parce que j'aime bien ce mec-là, malgré qu'il ait contribué à la bombe atomique, Einstein. Le monde est dangereux à vivre. Il est devenu très dangereux à vivre, y compris dans la montée des violences, etc. Bon. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, donc le système capitaliste, mais dit-il, à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Voilà, toutes mes émissions et toute mon action d'éducation populaire s'adressent à ceux qui regardent et qui laissent faire. J'essaie chaque fois d'arracher quelques personnes à l'idée de ne pas regarder, mais de faire. Hein, quand je pense qu'on a été combien 8-10 millions à applaudir les infirmiers à la manif de Chambéry, nom de Dieu de bordel, je dirais ça, excusez-moi, hein, nous étions quoi 1000 avec 200 infirmières devant l'hosto de Chambéry, que j'ai vu avant-hier et où les nouvelles sont pas bonnes. 200, 250 infirmières et 1000 types sur un Chambéry. Il y a 64 000 habitants dans les environs. Au total, il y en a 100 000. On ne pouvait pas être quand même 2-3 000 de plus pour que ça marque vraiment le cortège. Parce qu'un petit cortège de 1000 personnes dans une grande ville, bof, ça ne fait pas le poids. Si nous ne faisons pas le poids en masse, et je suis tellement content cet été de voir que le nombre de jeunes dans les camps Action Climat, hein, de mes copains, des Amis de la Terre, de Action Non Violente, ANV, tout ça, ils se sont réunis et cette année, il y a plus de 2000 jeunes qui se sont formés aux méthodes de blocage d'un train, blocage d'une machine à extraction de charbon, blocage d'une industrie pétrolière, blocage d'une autoroute. Bravo les gars! Qu'est-ce que, si j'avais 50 ans de moins, bon, à l'époque, on dissolvait les tracts devant les entreprises à Grenoble, on faisait des petits concerts pour soutenir les mineurs en grève, bon bref, ben là, je serais très heureux d'aller devant une des machines excavatrices géantes en Allemagne qui font que 40% de l'électricité allemande est faite avec du charbon, enfin, du lignite ou du charbon. Voilà, et ben ils se mettent devant et ils empêchent la machine d'avancer. Déjà 7 villages d'avaler pour nourrir le monstre capitaliste avec son énergie fossile dont il y aura bientôt plus de traces d'ici quelques dizaines d'années. Et en attendant, vous allez voir que le pétrole va forcément augmenter, même s'il a diminué du fait qu'il y a eu une sorte de décroissance obligée avec le Covid. Voilà. Alors, il faut, au-delà de ces thermomètres qui rendent malades, c'est tout le système de création, de production, de relations sociales, d'échanges et de consommation qu'il faut revoir. Il faut aussi revoir nos consommations. Moi, j'insiste pas trop parce que je veux pas culpabiliser tout le monde là de manger un bout de charcuterie ou un bout de cochon pas bio ou de rouler avec une vieille caisse, etc. Mais c'est bien vrai que on est possédé par ce que nous possédons. Et donc, il s'agit de moins posséder pour être moins. Il s'agit de moins posséder pour être moins possédé par ce que nous possédons. C'est-à-dire d'être moins préoccupé par la commode, machin, la bagnole truc, le nettoyage de ceci. Moins on a de biens, plus on peut créer de liens. Plus on a de biens, moins on crée de liens. Parce que plus on a de biens, plus on a le système de la clim, plus on a... voilà. Comme j'ai vu l'autre jour sur Internet... hallucinante vidéo de 3 heures sur la maison totalement autonome. Une paire de bobos, classe petite moyenne, hein, qui a réussi à acheter 12 hectares. Je me demande ce que fait le système qui dit que les 12 hectares, c'est de la terre agricole, ça doit revenir à des agriculteurs. Ben non, c'est revenu à des particuliers bobos des villes. Alors ils ont expliqué, hein, l'astuce c'est de faire mettre 2 chevaux hein, en se baptisant éleveur. Faut arrêter les affaires de filer la terre agricole à des 12 hectares pour nourrir 2 personnes, soi-disant autonomes en électricité. Ben non, ils sont pas autonomes du tout en électricité. Autonomes en énergie, ben non, ils sont pas autonomes en gaz. Autonomes, ils font semblant, mais non. Et même avec 12 hectares, s'il y a un peu le bois, parce qu'ils ont un bois, donc en coupant le bois, ils arrivent encore pour leur vie, parce que je sais pas, le bois, il faut 30-40 ans pour faire un bel arbre, hein, un beau frêne. Je me demande s'ils ne coupent pas plus vite que ça ne se renouvelle. Donc, pour faire vraiment renouvelable, il faut un autre système, ce dont nous allons parler avec une autre relance. Personne ne peut souhaiter, bien sûr, que la récession économique continue à court et moyen terme. Qu'il faut éviter l'effondrement de la planète, y compris financier, qui arrive. Parce que l'effondrement financier, sans doute une émission, mais j'en ai déjà dit un mot. Il faut reprendre en main la finance, il faut reprendre en main les banques, il faut reprendre en main l'industrie. Comment ? Ben c'est l'État. Il faut que notre État ose réellement s'attaquer à la domination. Donc il faut vraiment élire des gens qui s'attaquent à... Et là, c'est pas gagné, parce que ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont aussi les moyens de la production intellectuelle, ce sont ceux qui ont les médias. Hein. Donc, mais peut-être qu'on va arriver un jour à ce que l'État intervienne massivement. Mais l'État, ça suffira pas. Si nous ne sommes pas derrière l'État, très vite, ils vont se laisser reprendre par ceux qui tirent les ficelles, qui ont les moyens soit de les faire taire, soit de leur donner de l'argent, de les corrompre, soit au contraire d'organiser une grande banqueroute du pays au plan international en faisant monter les taux d'intérêt des banques pour que nous soyons un pays en faillite. Vous voyez bien qu'il faudra une grosse mobilisation populaire à la fois pour soutenir un État qui serait un État décidé à rompre avec ce système, par exemple faire un référendum d'initiative citoyenne ayant force de loi, donc un référendum législatif. Ensuite, la loi, elle est affinée au Parlement, mais l'essentiel de la loi est indiqué par référendum. Et là, vous avez pas de revenus au-dessus de 20 000 euros par mois. Déjà 20 000 euros par mois, c'est déjà scandaleux. La France Insoumise propose 30 000 euros. Je crois que le NPA propose 10 000. Écoutez, hein, on n'aurait pas plus que 15, 20 000 euros par mois, même 10 000. Et ben, ça signifie la fin d'une bonne partie du capitalisme, puisque les actionnaires ne pourront pas empocher des milliards comme Carlos Ghosn, qui se tape 14 millions par an. C'est hallucinant, tout ça pour diriger une industrie automobile polluante, qui tue, qui pue, et qui nous a été imposée depuis un siècle par les plus riches, qui a foutu des routes partout, du goudron, et qui soutient l'industrie pétrolière, qui est la plus polluante du monde. La preuve, c'est qu'elle nous a fait les gaz à effet de serre en masse.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.